La multinationale militaro-nucléaire.
Malville, la Suisse
Et le bloc occidental.
Malville, on a beaucoup parlé de Malville ces temps, et peut-être que nos auditeurs suisses ne se sentent pas très concernés. Eh bien, ils ont tort, car la Suisse participe aussi à Malville. Elle participe aussi au programme militaire nucléaire français. La Suisse aurait vendu à l'Italie 70 kilos de plutonium destiné à Superphénix. L'Italie, rappelons-le, participe au délire sur générateur. La Suisse ainsi vendrait son plutonium à des fins militaires. En fait, l'histoire est complexe. L'uranium enrichi utilisé en Suisse provient des États-Unis. Condition, toutes les matières fissiles suisses sont soumises à un traité de coopération que les Américains ont passé avec Euratom. Le traité interdit la vente de matières fissiles pour usage militaire. Mais Euratom n'effectue aucun contrôle. De plus, la Hague, qui assure l'ensemble du retraitement pour la Suisse, travaille simultanément pour les secteurs civils et militaires. Les droits de possession ne sont pas simples non plus. Le plutonium qui nous intéresse ici est issu de Mühleberg, qui appartient aux forces motrices bernoises. En 69, les forces motrices bernoises passent un accord avec la STEAG, société minière ouest-allemande au passé plus que douteux. La STEAG lui-même fournit aux forces motrices bernoises l'uranium naturel. En contrepartie, la STEAG reçoit le plutonium des forces motrices bernoises, avec la bénédiction des autorités helvétiques, bien sûr. Et ensuite, vendent ces fameux 70 kilos, peut-être plus, à l'Italie. Le 7 octobre dernier, le député Braunschweig interpelle le Conseil fédéral sur la question. Réponse, la part suisse du plutonium utilisée à Malville ne sera pas destinée à des fins militaires. Argumentation faible, notamment parce que les États-Unis ont pour l'instant toujours refusé d'admettre que l'on puisse subdiviser en part la production d'une installation nucléaire. On imagine bien les manutentionnaires au travail à Malville. Hé, attention, touche pas à ce plutonium-là. C'est le bouclier neutre. Cette information est tirée du Rebousse-Poil, journal écologique suisse-romande, de qualité toujours plus grande. Ça vaut moins la peine. Les centrales censurent, on dit. Voilà plus de 30 ans que ça fonctionne, sans accident majeur. Pour le moment, ne rentrons pas dans le détail des petits accidents, pour ainsi dire. Les taux de cancer et de malformations génétiques autour des centrales, les fuites sans aucune gravité, ni même le désastre majeur qui a dépeuplé toute une région de l'URSS il y a quelques années. Après tout, ce n'était que des Russes. Réfléchissons seulement à ce que signifie 30 ans, face aux 25 000 ans ou plus pendant lesquels il faudra protéger, entretenir les déchets et les centrales elles-mêmes qui ne seront utiles finalement que 20 ans. Vous me direz que nos descendants le feront puisqu'ils y seront obligés. Mais il y a vouloir et pouvoir. 25 000 ans nous portent en arrière à l'âge de l'homme du Cro-Magnon. Depuis, combien de civilisations ont perdu les moyens d'entretenir leurs institutions vitales? Qui monte la garde sur la grande muraille de Chine? Qui répare les digues de l'Empire Han ou celles des pharaons? Qui nettoie les canaux des Mayas? Qui répare les routes romaines? Notre société est encore mille fois plus complexe et plus instable que ces civilisations-là. A-t-on le droit vis-à-vis de l'humanité, de l'avenir, ou vis-à-vis des autres formes de vie sur Terre, d'ailleurs, de laisser des centaines de centrales désaffectées éparpillées dans la nature, de larguer des déchets au fond des mers ou sous les montagnes. Tenez, encore la semaine dernière, le gouvernement de M. Reagan a décidé de surseoir au moratoire qu'ils avaient respecté depuis une dizaine d'années sur le largage des déchets radioactifs en mer.
tout en admettant qu'il ne savait pas très bien quelles en seraient les conséquences, la commission ad hoc créée pour l'occasion a décidé qu'on pouvait commencer de nouveau à jeter n'importe quoi au fond de la mer, y compris des sous-marins nucléaires usagés. Vous voyez que l'empaquetage de ces déchets doit être quelque chose de soigné. Et ceux qui décident de foncer sur ces voies non maîtrisées, en minimisant les dangers, en prétextant que le pétrole, le charbon ou le solaire coûteraient quelques centimes de plus, en prétextant le danger des chars russes ou que sais-je encore, quelle balivernes, ont-ils jamais réfléchi sérieusement à ce qu'ils sont en train de faire? Non. Ce sont des hommes d'affaires et des hommes d'État. Pour eux, la réalité se borne au bilan de fin d'année de Framatome ou de la BBC, ou encore à des questions de balance de paiement, de filière technologique nationale, de puissance nationale, etc. L'humanité avance à grands pas et les yeux bandés. Alors, dans cet été très nucléaire qui voit dans notre région peut-être la dernière manif contre la superfolie de Malville et une votation importante par rapport à la construction d'une centrale nucléaire dans le canton de Genève, Radio Zone vous invite à y réfléchir. Ne leur faites pas confiance. Les probabilités d'accidents nucléaires ou la loterie de Babylone. Les dangers du nucléaire sont multiples. Dangers politiques d'abord, société nucléaire, société policière. On le voit tous les jours et tous les jours plus. Dangers militaires ensuite. Nucléaire civil et nucléaire militaire sont toujours plus intégrés, à Malville particulièrement. Dangers physiques ensuite. Parmi les dangers physiques, il y a le danger constitué par les petites fuites quotidiennes, soi-disant sans gravité, celles qui font mourir les arbres aux alentours des centrales ou qui font monter discrètement les taux de leucémie ou des malformations congénitales de la population locale. Le danger constitué par la présence à long terme de centrales désaffectées, de dépôts de déchets, etc., à la merci d'un tremblement de terre, d'un acte de guerre ou de la détérioration sous l'effet de la radioactivité des enveloppes isolantes. Enfin, il y a le danger de l'accident grave, immédiat, la centrale qui saute ou qui laisse échapper une grosse fuite. Aujourd'hui, ne parlons que de ce dernier genre de danger. Les propagandistes du nucléaire affirment que les accidents graves confinent à l'impossible, tellement leur probabilité est nulle. Mais à cela, il faut répondre trois choses au moins. D'abord, qui calcule ces probabilités et dans quel but? Deuxièmement, peut-on envisager de créer, de toutes pièces, et accepter un danger aussi catastrophique pour les hommes et l'environnement simplement parce qu'il est improbable, surtout quand d'autres solutions existent? Toute probabilité plus grande que zéro est en l'occurrence inacceptable. Troisièmement, on sait que le pire peut arriver, car une centrale a déjà bel et bien sauté. Heureusement pour les nucléocrates, cela s'est produit en URSS. Et le secret était bien gardé, avec la complicité d'ailleurs de la CIA. Cela s'est passé il y a une quinzaine d'années. Tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que toute une région, des centaines de kilomètres carrés, ont été dévastées et restées inhabitées, et que les trains qui traversent la zone sont fermés hermétiquement. Quatrième chose qu'il faut préciser à propos de ces probabilités, on peut se référer à quelques accidents moins graves qui sont arrivés en Occident et noter la probabilité qui leur était assigné avant l'accident. L'accident de la centrale de Salem, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Incident. Refus d'arrêter la réaction de fission lorsque le système de sécurité lui dit de le faire. Le 22 et le 25 février 1983. Probabilité officielle 1 sur 1 million. Hanford, aux États-Unis, dans l'État de Washington. Il y a eu 20 fuites jusqu'en 1980, notamment en 54, 55, 66, 70, 73 et 74. Entre 7000 et 450 000 litres d'eau radioactive en tout, sur un total de près de 2 millions de litres, se sont échappés de cette centrale. Il y a eu des corrosions des cuves, brisures des fentes, expansion thermique. La contamination du tritium qui a pu s'infiltrer dans le sous-sol jusqu'à 15 km de la centrale. La probabilité affichée de cet accident, de ces accidents, 1 sur 10 milliards. Et enfin, nous pouvons regarder la fameuse accident de Three Mile Island, également aux États-Unis. Cœur endommagé, un vide de 1,5 m de profondeur dans le cœur du réacteur. Probabilité officielle de cet accident, 1 sur 100 millions. Fuite d'eau de 4500 litres d'eau radioactive. 11 falsifications de tests de sécurité avant 79. 17 violations de mesures de sécurité. 150 précédents selon sources officielles. Alors, croyez-vous encore à ces calculs de probabilité? Les nucléocrates prétendent pouvoir acheter chaque semaine leurs billets de loterie en étant absolument certains de ne jamais gagner. Les chances sont si faibles. Mais dans cette roulette russe, c'est nous qui sommes visés. Mort des forêts, les centrales nucléaires démasquées. Les promoteurs du nucléaire utilisent volontiers l'écologie pour redorer leur blason. En ce moment, en Suisse, par exemple, il y a toute une campagne pour dire que les centrales produisent des déchets radioactifs, mais permettent d'épargner les forêts, contrairement au pétrole et aux autres énergies fossiles. En réalité, cette affirmation semble se réduire à un mythe. Les récents travaux du professeur Reichelt en Allemagne montrent une corrélation étroite entre la présence d'installations nucléaires et certaines zones endommagées des forêts. Le professeur Gunther Reichelt, biologiste, travaille à l'Institut d'études de Rottweil. Il étudie depuis quelque temps déjà la mort des forêts. En 1982 et 83, il parvient à mesurer, à l'aide d'une méthode de quadrillage développée par lui, le degré de dommage aux forêts dans une grande partie du sud de l'Allemagne, plus quelques régions de France. Reichelt part des arbres malades eux-mêmes, contrairement à la plupart des analystes du mal des forêts. Reichelt espérait que le report minutieux de toutes les mesures sur une carte conduirait à l'identification des sources de matière causant des dommages, ainsi que des facteurs qui y contribuent. Cet espoir est confirmé. Les zones industrielles montrent, dans la direction du vent dominant, des bandes de forêts endommagées qui s'étendent parfois au-delà de 50 km de l'origine de la pollution. Le travail du professeur Reichelt est rapidement reconnu dans le monde scientifique. La revue Nature cite quelques collègues de Reichelt. Un travail scientifique de haut rang, selon le professeur Mohr. Un terrain scientifiquement encore vierge, selon le professeur Havlik. Un premier pas décisif dans la recherche des causes, professeur Weichert de l'Université de Freiburg. Mais les louanges de ses collègues n'aveuglent cependant pas Reichelt. Il y a encore sur sa carte quelques absurdités apparentes qui le dérangent. Près de Mosbach-Neckar et dans une région au nord-ouest de Freiburg se trouvent des zones de forêt très fortement endommagées dont l'explication ne peut pas être fournie par les conditions météorologiques ou l'émission de polluants connus. Sur la base de son carnet de notes, il lui vient un soupçon. Il avait décrit en 1975 de forts dommages dans les environs du réacteur à eau lourde de Brennilis, en Bretagne. Une mise en valeur plus précise de ces mesures renforce ses craintes. Une zone de dommage est centrée précisément sur l'usine nucléaire de Obrigheim. Plus on s'éloigne du lieu de la centrale, plus les dommages diminuent. Le même résultat peut être mis en évidence dans la région autour de la centrale de Bugé, près de Lyon. On se rapproche, vous voyez, de chez nous. Là aussi, le déplacement des courbes de dommages vers l'est peut être mis en relation avec les vents dominants d'ouest. Les examens et les observations d'arbres dans les environs des centrales atomiques de Wiehrgassen et Eisenkamm au nord de l'RFA montrent des résultats semblables. Un journaliste du Rebousse-Poil, d'où sont tirés la plupart de ces renseignements, a demandé au professeur Reichelt des précisions sur la zone de dommage située au nord-est de Fribourg. Après avoir réfléchi un moment, il a souri et nous a déclaré, je cite donc le Rebousse-Poil, « Des collègues m'ont rendu attentif au fait que Fessenheim se trouve dans le voisinage. À Reckingen, il m'est arrivé la même chose. Sur ma carte des dommages, le village argovien se trouve à l'origine d'une grosse zone de dégâts, comparable à celle des villes industrielles de Schaffhouse et Singen. Si l'on prolonge la zone en question en Suisse, elle arrive à Betznau. Or, je ne savais pas qu'il y avait là une centrale atomique. Vous pouvez donc voir que je ne pars pas de l'idée d'accuser à tout prix les centrales nucléaires, mais au contraire que ce sont les résultats de mes recherches qui m'amènent à une corrélation entre la radioactivité et la mort des forêts. Les végétaux, selon Reichelt, sont agressés sans doute par des isotopes radioactifs qui proviennent de centrales et qui s'accumulent dans leurs tissus. Ce sont principalement le carbone, le tritium et le krypton. Oui, celui de Superman, n'est-ce pas? Combinés à d'autres polluants tels que les oxydes d'azote, ils en augmentent la nocivité. Le tritium en particulier, qui est rejeté sous la forme de gaz ou dans l'eau par les centrales, produirait des effets nocifs. Mais la recherche dans ce domaine n'est pas assez poussée encore pour déterminer exactement comment. En Suisse, le lobby nucléaire a répondu aux recherches du professeur Reichelt par la bouche du Conseil fédéral lui-même. Au sujet du tritium en particulier, le Conseil fédéral prétend que les doses sont si faibles que le danger doit être aussi minime pour les végétaux et les animaux qu'il est pour l'homme. Sans doute. Mais alors, si les arbres meurent, quelles conclusions en tirer? Industrie nucléaire, l'incident quotidien. Vous imaginez sans doute que, peut-être bien, que les centrales nucléaires, c'est des vastes organismes scientifiques, automatiques, où tout a été calculé, où tout baigne dans l'huile. Et pourtant, quand on regarde un peu plus près, on a une autre impression. On a plutôt l'impression du bricolage, de l'aventure et de vraiment l'inattendu à chaque coin de rue. Regardez par exemple les taux d'indisponibilité des installations nucléaires du marché commun en 1982. Il s'agit donc du pourcentage du temps qu'une centrale est hors d'état de nuire, j'allais dire, de produire, dû à un incident technique programmé ou non programmé. En France, 47% du temps des centrales étaient indisponible. 47% du temps, en 1983, en moyenne, les centrales étaient arrêtées. Et ceci pour cause de 66 arrêts programmés et 196 arrêts non programmés. Vous voyez un peu le boulot. Mais les Français n'ont pas à avoir trop honte parce qu'en Italie, l'année d'avant, il y avait un taux d'indisponibilité des installations de 76%. Donc, 3 fois sur 4, la centrale était arrêtée en panne. Quant aux Allemands, efficaces comme on sait, ils avaient 2 fois sur 3 leur centrale marchée. Tout cela n'est pas très très rassurant. Et si on pense aux accidents caractérisés, tenez, on peut en reprendre un qui s'est passé en Noël dernier en Angleterre. C'était à la centrale de Windscale. Encore une fuite radioactive, rassurez-vous, comme toujours, sans gravité aucune. Une plage a quand même été interdite à la baignade pendant quelques jours. Un mois après, rebondissement de l'affaire. Les algues venues s'échouer sur encore une autre plage se révèlent 100 à 1000 fois plus radioactives qu'ils ne devraient l'être. Une heure de bronzing au contact de ces plantes remarquables vous ferait dépasser la dose limite de radiation pour une année. Il semblerait qu'un tuyau va de Windscale jusqu'à la mer pour décharger des effluents. Ils ont trouvé vraiment un joli terme. Hein? Et c'est de ce côté-là qu'il faudrait regarder. Cette plage aussi est interdite à la plage, à la baignade, par la suite, bien sûr, et une enquête, entre guillemets, a été ordonnée. À propos de ces fuites sans gravité, les publicistes du lobby nucléaire disent souvent que le nucléaire n'a jamais tué personne. C'est parfaitement faux. Le nucléaire a déjà tué des milliers de personnes, et il y a des études documentées pour le prouver. Mais des études qui, souvent, ne font pas la une des journaux, c'est le moins qu'on se puisse dire. À Windscale même, il y a eu un accident grave en 1957, où les autorités admettent aujourd'hui quand même quelques centaines de cas de cancer de la thyroïde provoqués par l'iode radioactif. On y reviendra une autre fois parce que, en fait, la situation à Windscale en 1957 était bien pire que ça. Et les conséquences ont été bien plus désastreuses. À part cet accident majeur, certains villages autour de Windscale ont aujourd'hui des taux de leucémie plus de 10 fois plus élevés que la moyenne nationale. Et la leucémie n'est qu'une indication, disons, une certaine fraction des cancers qui peuvent être provoqués par la radioactivité. Mais jusqu'à présent, les autorités ont pu éviter une enquête d'ensemble. Une épidémiologie de la région autour de Windscale. Et tant mieux pour eux. Certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs pu apprécier l'excellent reportage sur Temps présent à la télévision suisse romande à ce sujet, où on a pu voir entre autres ce couple effaré essayant de vendre en catimini leur belle maison sur la mer, devenue avec les années petit à petit radioactive. Le plutonium est patient, très très patient. Et voilà notre réflexion anti-nucléaire du jour, le secret nucléaire ou anatomie d'un accident. À chaque accident nucléaire, les technocrates et autorités de service font étalage de leur objectivité scientifique et de leur volonté de transparence envers le public. La presse suit attentivement l'affaire, les fuites sont sans gravité et tout baigne dans l'huile. Malheureusement, quelques années après, les fouineurs antinucléaires en découvrent souvent de belles. Dans notre dernière chronique, nous avons parlé de l'usine nucléaire de Windscale, lieu de toute une série de pollutions radioactives graves. L'accident le plus grave eut lieu entre le 9 et le 12 octobre 1957, quand une partie du réacteur numéro 1 a surchauffé et pris feu. À l'époque, les autorités ont annoncé un nuage de radioactivité qui aurait été emporté par-dessus la mer. Aujourd'hui, il apparaît que le nuage a été porté par le vent vers le sud-est, au-dessus de la plus grande partie de l'Angleterre et un bon bout de l'Europe. Mais surtout, à l'époque, on a parlé d'iode radioactive dans ce nuage comme principal élément radioactif dangereux. Il a fallu attendre un quart de siècle pour que les autorités, poussées à bout par les reporters du New Scientist, journal extrêmement intéressant, extrêmement sérieux anglais, les autorités ont enfin reconnu qu'une autre substance radioactive, bien plus dangereuse que l'iode, avait été relâchée en quantité en 1957. Cette substance, c'est le polonium. Sur ces nouvelles bases, le professeur Urquhart de l'université de Newcastle a étudié les taux de mort de leucémie dans les régions les plus proches affectées par le nuage. Résultat, on trouve 1200 morts en plus que dans les autres régions. Si on tient compte de toutes les variétés de cancers provoquées par les radiations, On estime que le nuage a provoqué 8000 morts uniquement en Angleterre. Mais ça, on ne sait que maintenant, 26 ans après l'accident. Quant aux morts, la plupart ont crevé dans les années 70, donc une quinzaine d'années après leur exposition aux radiations. La mort atomique est comme ça, invisible, incroyable, lente, patiente. Le temps que ces 8000 personnes meurent, tout le monde avait oublié à faire, les autorités étaient ailleurs. C'est vraiment un danger d'une abstraction assez difficile à saisir. Il faut vraiment vouloir savoir la vérité pour le savoir. Bref, mais revenons donc à l'aspect secret. Pourquoi tout ce secret ? Eh bien, à l'époque, le polonium produit à Windscale était un élément vital pour la fabrication des bombes atomiques anglaises. Si la vérité était sortie, l'opinion se serait peut-être opposée à la poursuite du programme. Ceux qui étaient pour le ban the bomb, Bertrand Russell en tête, auraient trouvé des arguments. Le secret était devenu une question d'intérêt national. Et le jour qu'on aura de gros ennuis à Malville, clé de voûte du programme militaire français et de la force de frappe, pensez-vous que nous qui habitons sous le vent, on sera informés ?